Vous écoutez
RMC.
Notre pouvoir d'achat est de plus en plus sous pression. Le nombre de dossiers de surendettement a bondi de 10% en 2025 et il avait déjà explosé l'année d'avant. Bonjour Maxime Chipoy.
Bonjour.
On a besoin de vos conseils ce matin. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le président de Moneyvox, le site d'information spécialisé sur les questions d'argent. C'est un indicateur inquiétant, ces explosions de nombre de dossiers de surendettement?
Alors ça peut être interprété de plusieurs manières. Le dépôt de dossier de surendettement, c'est déjà une démarche positive, puisque ça veut dire qu'on se rend compte qu'on a des problèmes et qu'on est dans une démarche pour les résoudre. Le plus inquiétant, c'est vraiment de faire l'autruche et d'attendre que la situation se dégrade jusqu'au moment où vraiment on n'en peut plus, parce que là, la situation va être beaucoup plus difficile à résoudre. Donc c'est un indicateur qui fait évidemment pas plaisir, mais ça peut être la manière aussi de traiter le problème.
Ça permet de s'en sortir. Comment on tombe dans le surendettement? On a eu plusieurs témoignages depuis ce matin d'accidents de parcours, d'arnaques parfois, qui ont conduit tout d'un coup à dégringoler.
Effectivement, le cas le plus classique, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi avec sa carte bancaire, c'est une situation qui est fragile, quelqu'un qui a des moyens qui sont limités, qui a quand même des contraintes d'énergie, de logement, etc., et qui peut connaître un accident de la vie, un divorce, un décès dans sa famille ou la perte de son emploi. Et dans ce cas-là, le budget est complètement déstabilisé et c'est là qu'on rentre dans cette spirale.
Dans cette spirale, David, vous l'avez connu, cette spirale. Vous nous appelez du Puy-de-Dôme. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, tout à fait.
David, racontez-nous ce qui s'est passé pour vous.
Moi, en fait, j'étais victime d'une escroquerie. J'ai fait une vente d'un véhicule et en fait, c'était une bande organisée qui était basée sur Lyon, qui est venue récupérer le véhicule avec un faux chèque de banque et donc personne ne le savait. Il y avait vraiment tout qui était bien calé chez eux, en tout cas.
Ouais.
Et je me suis retrouvé avec un faux chèque de banque et j'avais plus la voiture qui avait une valeur à peu près de 50 000 euros.
Okay.
Et vu que moi, je vendais ce véhicule parce que je fermais mon entreprise à ce moment-là, je me suis retrouvé en difficulté, tout simplement.
Donc vous vous êtes retrouvé tout d'un coup avec effectivement cet argent qui devait rentrer, qui n'est pas rentré, la voiture qui n'est plus
ça.
Là. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Combien de temps vous mettez avant de réaliser qu'il va falloir éventuellement avoir recours à carrément des dossiers pour être accompagné?
En fait, ce qui se passe, c'est que moi, le jour où j'ai été victime de cette escroquerie-là, en fait, cette bande organisée était sous écoute par la police judiciaire. Et donc, le jour où j'ai vendu le véhicule, ils ont intervenu. Sauf que, ils m'ont dit que l'affaire allait se résoudre parce que j'allais avoir un remboursement, etc. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Et au bout de quelques mois, vous avez un crédit à payer. Et vu que vous avez plus de rentrée d'argent, on va dire, vous vous retrouvez à trouver un nouveau job, sauf que vous avez des prélèvements sur vos nouveaux salaires. Et des prélèvements qui étaient exorbitants, donc c'était vraiment très 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 compliqué. Donc j'étais obligé à ce moment-là.
Demandé un dossier de surendettement. Est-ce qu'aujourd'hui, David, vous vous en êtes sorti?
Je m'en suis sorti au bout de 5 ans, donc okay. Sans problème pour au niveau des échéances que j'avais réglées, j'ai pas eu de soucis. Et au bout de 5 ans, en fait, on a cette levée d'interdit bancaire, donc à ce moment-là, j'ai pu continuer entre guillemets ma vie. Et aujourd'hui, il me reste encore à peu près quelques mois à payer, parce que c'est 5 ans.
Mais vous voyez le bout du tunnel.
J'ai payé le véhicule. En fait, je suis encore en train de payer le véhicule que je n'ai plus et j'ai aucun recours. J'ai rien du tout. Voilà.
C'est terrible. Merci pour votre témoignage, David. Quand on entend effectivement le témoignage de David, Maxime Chipoy, on voit que il y a effectivement tout d'un ces arnaques, ces accidents de parcours, mais il y a aussi un surendettement qui vient de manière plus sournoise parce que tout simplement les gens ne s'en sortent pas. Comment on fait pour vivre avec un SMIC aujourd'hui?
Alors effectivement, pour beaucoup de Français, notamment ceux qui habitent en ville, vivre avec un SMIC, c'est mission impossible. C'est ce que disait le PDG de Michelin il y a quelques mois. Un SMIC, ça suffit clairement pas. Et quand on regarde, quand on fait le point dans les dossiers de surendettement, dans les commissions de surendettement, où il y a des spécialistes de ces questions-là, qu'on enlève toutes les dépenses qui sont pas forcément légitimes, la moitié des dossiers n'ont aucune capacité de remboursement. Même en mettant le budget à zéro, il y a aucune capacité de remboursement.
Concrètement, quand on est dans un dossier de surendettement, quand on est accompagné là-dessus, on a des dépenses limitées, tout est sous contrôle.
Alors effectivement, tout est sous contrôle. On vous enlève votre chéquier, vous n'avez plus droit au crédit. Vos dépenses sont contrôlées par les commissions de surendettement et sur une durée qui est très longue. Monsieur parlait de 5 ans, c'est à peu près ce qui arrive. Donc c'est pas le début de la fête.
C'est pas facile, mais c'est aussi ce qui permet de s'en sortir.
C'est le seul moyen d'apurer les dettes. Et puis dans ces commissions de surendettement, dans certains cas, vous avez un effacement d'une partie ou de toutes les dettes.
Le problème, c'est que dans le même temps, on le voit, les frais bancaires continue d'augmenter, il devrait augmenter de 3% cette année. Est-ce que la spirale, elle est alimentée aussi par les agios, les frais bancaires? Est-ce que les banques jouent leur rôle pour alerter ou est-ce qu'au contraire, ils mettent la tête sous l'eau?
Alors, les frais bancaires contribuent, comme toutes les hausses de dépenses, au problème, avec cet aspect particulier qui est que, dans le cas de la banque, quand on est à découvert, on paye plus cher que quand tout va bien. Donc effectivement, quand on a les commissions d'intervention, les frais de rejet de chèque, etc., ça améliore pas la situation. Alors, s'il faut être un peu positif, la situation s'est quand même améliorée, puisqu'il y a eu des plafonnements un peu dans tous les sens sur ces frais bancaires-là. Donc maintenant, quand le banquier vous détecte comme étant quelqu'un de fragile, vos frais d'incidence sont extrêmement limités, hein, c'est du moment 20 ou 30 euros par mois, mais évidemment, c'est quelque chose qui s'ajoute à des budgets qui sont extrêmement fragiles.
Quel conseil vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent?
Alors le premier conseil, c'est que dès qu'on sent qu'on est très limite, que notre découvert commence à traîner, il faut aller voir son banquier, il faut vraiment pas avoir peur de son banquier et faire le point sur sa situation, parce que la pire des situations, et malheureusement c'est ce qu'on voit très souvent, c'est que les gens font un peu l'autruche et qu'ils attendent le plus longtemps possible avant de régler la situation, sauf que la situation se dégrade en attendant et c'est plus difficile à régler.
Donc n'attendez pas et réagissez. Merci Maxime Chipoy, président donc de Moneyvox, qui est ce site d'information spécialisé sur les questions d'argent. Et merci à David pour son témoignage.